Les paraboles de Christ numéro 8. Les deux semeurs de deux différentes semences. Le 29 novembre 2003. Rêve. Brian Kozurek. Matthieu 13, 24 paragraphes. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 mai. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines et en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Remarquez que Jésus a fait remarquer le fait que deux sortes de vie, semences, très différentes seront plantées l'une à côté de l'autre, dans le même champ. Le champ représente le monde, et l'ensemencement est d'abord fait par le propriétaire du champ. Puis son ennemi est rentré dans son champ et a imité son ensemencement, mais avec une vie, semence, différente. Les faits de cette parabole sont les suivants. 1. Il y a un seul champ dans lequel la semence est mise. C'est à dire une femme. Nous sommes le champ. 2. Il y a deux semeurs ou sources de semences, le propriétaire du champ et son ennemi. 3. Il y a deux semences qui sont semées. Elles identifient deux différentes formes ou natures de vie. Le blé et l'ivraie. 4. La semence de l'ivraie est une intrusion, mais elle a été autorisée de croître à côté de l'ivraie jusqu'à la moisson, pour le bien du blé, jusqu'à ce que le blé soit assez mûr pour supporter une séparation. 5. La séparation entraîne toujours une lutte. 6. Cette ivraie doit être liée et mise en gerbe. 7. L'ivraie est destinée à être brûlée. 8. Le blé doit être rassemblé, mais pas lié en gerbe, mais il doit être amassé dans le grenier du propriétaire. Remarquez que ces deux semences sont autorisées de croître côte à côte jusqu'au temps de la moisson. Une séparation doit ensuite se faire. Il y aurait d'abord un rassemblement de la semence que l'ennemi a semée. L'ivraie commencera à se rassembler premièrement. Jésus utilise le mot « déo » pour décrire cette action de lier. Ce mot veut en réalité dire « lier » en mettant sous l'obligation. Or, ce ligotage est nécessaire pour pouvoir contrôler l'assemblée de l'ivraie. Et en mettant les gens sous des obligations, ce qui les éloigne de la parole de Dieu, nous voyons que ces dénominations ont ligoté les gens, en les empêchant de chercher encore plus de lumière que celle qui est disponible dans leur église. Ceci est fait au travers des programmes. Regardez chaque grande église et vous verrez que les gens n'aimés se contentent pas de venir entendre un prédicateur prêcher, mais vous trouverez qu'il y a beaucoup de programmes qui se déroulent dans ces églises. Plus l'assemblée est grande, plus il y a des programmes pour garder les gens dans la satisfaction. Après que l'ivraie soit liée, Jésus nous dit qu'elle est ensuite mise en gerbe. Or, en utilisant le mot gerbe ou botte, trad, Jésus est en train de nous dire que qu'il y a une certaine caractéristique ayant trait à ce bottelage. Bien que le mot pour gerbe soit un mot qui peut signifier bottelage, Jésus a utilisé deux mots différents pour décrire le processus qui doit avoir lieu. Il dit que les moissonneurs vont la lier en gerbe. Il n'a jamais dit en une seule gerbe, mais en plusieurs gerbes. Nous voyons donc que le mot « gerbe » explique encore mieux le processus par lequel cette ivraie doit passer, avant qu'elle soit prête à être brûlée. Elle est d'abord liée, puis elle est mise en gerbe. L'usage du pluriel nous renseigne qu'il y aura beaucoup de dénominations différentes. Exactement comme nous voyons qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Elle est d'abord rassemblée. Ce rassemblement laisserait croire qu'il s'agit d'un rassemblement toute liberté, mais en ajoutant le mot gerbe, pour mieux expliquer ce processus, Jésus nous montre que la forme et la symétrie et le but seront impliqués dans la manière dont elle sera présentée afin d'être brûlée. Une gerbe ou botte, trad. N'est-ce pas simplement une collection désordonnée de bois jetés dans n'importe quelle direction? Mais une gerbe ne laisse entendre que toute l'ivraie sera bien arrangée dans chaque gerbe, le tout étant aligné dans la même direction. Leur union en une gerbe ou assemblée fera que ça soit un meilleur moyen qui permettra de les brûler tous. Et nous voyons donc comment l'organisation Esther le moyen par lequel l'ivraie Esther rassemblée est mise ensemble. L'église Esther liée en premier par une fausse parole. Puis, en s'organisant autour de la fausse parole, ils assemblent les gens dans un moyen plus efficace et plus avantageux, par lequel le groupe entier sera apprêté pour être brûlé. Par conséquent, nous devrions voir clairement que la fausse vigne, c'est Esther l'église organisée. Car l'organisation Esther ce qui les lie ensemble. Donc, si l'un Esther ainsi, l'un des attributs de la fausse vigne Esther son aptitude à s'organiser en dénombre et ainsi, utiliser les moyens efficaces pour prêcher leur faux évangile. Or, une gerbe Néhémie représente pas une organisation à mailles ouvertes, mais une organisation qui a des structures et des symétries. Tous les bois sont dirigés dans la même direction, ils sont destinés au même but, et ils doivent se conformer aux mêmes critères afin de convenir dans cette botte. Maintenant, voyons si ceci n'est pas exactement le portrait dont Jésus lui-même parle, concernant les deux semences. Matthieu 13h36 Alors, il renvoya à la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » 37 Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est Esther le fils de l'homme. » Jésus est appelé du titre de fils de l'homme 84 fois, ce qui dépasse tous les autres titres le concernant, utilisés dans la Bible. Ce titre, fils de l'homme, signifie un prophète. C'est Esther pourquoi voyons qu'un prophète doit venir, semant la semence. 38 Le champ. C'est Esther le monde. La bonne semence. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie. Ce sont les fils du malin. 39 L'ennemi qui l'est semé. C'est Esther le diable. La moisson. C'est Esther la fin du monde. Les moissonneurs. Ce sont les anges. Les messagers. 40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, par les messagers envoyés à l'ivraie, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, ceux qui achoppent les autres et ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui savent faire ce qui est juste. Mais Néhémie le font pas, 42 Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça. Esther période de tribulation, 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Maintenant, dans les épîtres de Paul, on nous parle de deux sortes d'enfants. Les enfants obéissants et les enfants de la désobéissance ou fils de la rébellion tirés. Trad. I Pierre 1, 14 Comme des enfants obéissants, Néhémie vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Éphésiens 2, un paragraphe vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, deux dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ou enfants de la désobéissance trade. Éphésiens 5, 6 Que personne n'ait mis vous séduise par de vains discours. Car s'astère à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 3, 6 S'astère à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il nous faut comprendre ce que Paul est en train de nous dire lorsqu'il a parlé des enfants de la désobéissance. Il n'a pas dit « enfants désobéissants », mais il les a appelés « enfants de la désobéissance ». En d'autres termes, ce sont des enfants qui sont engendrés dans ce monde à travers un acte de désobéissance. Ils étaient donc le produit de la désobéissance. Et si Esther le produit de la désobéissance, ils sont donc la semence de la désobéissance. Nous connaissons maintenant que la vie semence représentée ici dans cette parabole parle des gens réels, les fils de Dieu et les fils du malin, semés par le diable. Ils sont la semence du serpent, comme nous le disons dans Jean 3, 12 et Néhémie par ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Or, si Caïn était le fils d'Adam, Jean-Néhémie pouvait alors pas tenir des propos si sévères et si critiques contre lui, parce qu'Adam était le fils de Dieu. Mais nous savons que Caïn a été conçu par la volonté de désobéissance d'Ève avec le serpent. Docteur, George Oreker Berry, dans son Ancien Testament interlinéaire hébreu-anglais Genèse Exode, montre que la traduction littérale linéaire du mot hébreu Nasha Esther le mot séduire en anglais, séduce. D'autres traductions citent disant, le serpent m'a séduite en anglais, beguille et j'ai mangé. Maintenant, que nous utilisions le mot beguille, séduire ou séduce, séduire, ils ont tous les deux la même signification. La concordance de Strong définit ce mot comme étant une racine primitive de détourner moralement quelqu'un du droit chemin, tromper quelqu'un mentalement ou séduire moralement. Webster nous dit que le mot séduire veut dire convaincre d'avoir une relation sexuelle illégale, spécialement pour la première fois. Vous n'arriverez jamais à comprendre parfaitement et clairement la prédestination et l'élection avant de voir les deux faces de la médaille. Paul nous l'explicite dans le livre de Romains, chapitre 9. Ici, il parle de Jacob et de Saül, qui sont tous les deux nés des mêmes parents. Mais cependant, l'un était un vase d'honneur destiné à être ainsi, et l'autre un vase vil. Paul nous fait savoir qu'avant que les enfants fussent nés, afin que le but de l'élection subsistât, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Saül. Scofield reconnaît la très forte ressemblance entre la stature humaine et celle qu'avait le serpent édénique dans le jardin d'Éden, et il a noté cela dans ses notes de bas de page sur la malédiction. Si vous prêtez attention, le serpent était une créature debout jusqu'après la chute. Genèse 3, 14 paragraphe L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, les jambes Néhémie sont plus, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, ceci nous dit que le serpent a une postérité ou une semence, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16 paragraphe Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-il la femme en rapport avec l'accouchement, si elle avait mangé une pomme? Les pommes, qu'est-ce qu'elles ont à faire avec cette malédiction sur la conception? Une autre chose que nous pouvons examiner pour pouvoir comprendre cette doctrine de la semence du serpent, Esther qu'il y avait deux arbres dans le jardin. Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham intitulé « La préparation », là, il a dit, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'un était la vie, l'autre était la connaissance. L'homme quitta l'arbre de vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Le mot espèce dont il Esther fait mention au verset 12 Esther le mot hébreu mi et il se prononce minute. Ce mot signifie espèce et se réfère à la nature. Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature. La loi de Dieu sur la reproduction parle donc totalement contre l'hybridation. Car l'hybridation réunirait deux différentes espèces ou natures et produirait une vie qui n'est pas naturelle. Vous pouvez d'ailleurs voir que la loi de Dieu sur la reproduction est censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'il a placée dans la semence. Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets de l'Écriture que Dieu a placé ses semences sur la terre à ce moment par sa parole parlée. Elles n'y sont pas encore plantées en terre, mais l'Écriture dit clairement qu'elles sont sûres au-dessus de la terre. Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas voir la vie. On peut seulement voir les attributs de la vie, tels que la couleur, ou le parfum, ou les autres attributs tels que la texture, le taux de croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est invisible. Et elle n'est peut-être vue que par ses divers attributs qu'elle manifeste. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'il a placées sur la terre étaient encore sous la forme spirituelle. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la parole de Dieu avait fixé la voie établie par laquelle elles devaient se multiplier. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de se faire, mais ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans le sens visible du mot, car nous verrons plus tard au verset 14-15 que le soleil n'est pas encore créé, et sans la lumière du soleil, aucune vie n'émit peut se manifester sur la terre. Genèse 1, 14. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-il la femme en rapport avec l'accouchement? si elle avait mangé une pomme? Les pommes? Qu'est-ce qu'elles ont à faire avec cette malédiction sur la conception? Une autre chose que nous pouvons examiner pour pouvoir comprendre cette doctrine de la semence du serpent, est-ce qu'il y avait deux arbres dans le jardin? Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham intitulé La préparation, là, il a dit, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'un était la vie, l'autre était la connaissance. L'homme quitta l'arbre de vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Genèse 1, 11 Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Le mot espèce dont il est fait mention au verset 12 est le mot hébreu mi et il se prononce minute. Ce mot signifie espèce et se réfère à la nature. Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature. La loi de Dieu sur la reproduction parle donc totalement contre l'hybridation. Car l'hybridation réunirait deux différentes espèces aux natures et produirait une vie qui n'est pas naturelle. Vous pouvez d'ailleurs voir que la loi de Dieu sur la reproduction est censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'il a placée dans la semence. Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets de l'Écriture que Dieu a placé ses semences sur la terre à ce moment par sa parole parlée. Elles n'y sont pas encore plantées en terre, mais l'Écriture dit clairement qu'elles sont sûres au-dessus de la terre. Maintenant, nous savons qu'on n'y peut pas voir la vie. On peut seulement voir les attributs de la vie, tels que la couleur, ou le parfum, ou les autres attributs tels que la texture, le taux de croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est invisible, et elle n'est peut-être vue que par ses divers attributs qu'elle manifeste. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'il a placées sur la terre étaient encore sous la forme spirituelle. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la parole de Dieu avait fixé la voie établie par laquelle elles devaient se multiplier. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de se faire, mais ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans le sens visible du mot. Car nous verrons plus tard au verset 14-15 que le soleil n'est pas encore créé, et sans la lumière du soleil, aucune vie n'émit peut se manifester sur la terre. Genèse 1, 14. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. En outre, nous verrons aussi au verset Genèse 2:1-2 que ces semences doivent être plantées en terre. Une fois qu'elles sont plantées en terre, elles se développeront hors de la terre telle que le dicte la loi de Dieu au verset 12. Remarquez au verset 12 qu'il faut que la terre produise. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'elle sorte de la terre. Mais jusque-là, les semences Néhémie sont qu'au-dessus et sur la terre. Elles doivent d'abord être plantées. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans lequel elles doivent se développer. Ainsi, nous voyons ce qui suit. Numéro 1 au verset 11. Nous voyons la semence de la parole parlée, le logo, sortir et produire des semences. Numéro 2. Les semences, logo, sont placées au-dessus et sur la terre. Numéro 3. Elles attendent leur ensemencement afin que, à partir de la terre, elles arrivent à la manifestation, au dehors. C'est donc ça l'ordre dans lequel elles doivent se développer. Ensuite, si nous continuons à lire attentivement le chapitre 1, nous verrons tous les animaux et toutes les créatures de la mer être prononcées à l'existence et en dernier lieu, l'homme. Genèse 1, 20. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 24. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui estère à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous verrons que ce n'est pas un autre récit de la création, mais la continuité du même récit de la création. Au chapitre 1, nous voyons seulement la parole parler de Dieu sortir et prononcer des êtres spirituels à l'existence. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu habiller ces êtres spirituels de la poussière de la terre. Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. 3. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, remarquez que le mot origine Esther utilisé. C'est Esther le mot hébreu, Toulda prononcé Touledav, et qui signifie le compte-rendu, ou le récit de, ou le résumé de la création. 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, la version anglaise dit, en terre, et aucune herbe des champs n'est mis germain encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant, je veux que vous remarquiez donc que jusque-là, Néhémie nous donne que le récit de la création, comme étant la vie de la parole parlée, la vie spirituelle de chaque semence et de chaque animal. Nous savons que ceci est vrai parce qu'on nous dit que ce récit de compte-rendu vient avant que son Néhémie soit en terre. 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, la version anglaise dit, en terre, et aucune herbe des champs n'est mis germain encore. 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, au chapitre 1, 26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Maintenant, remarquez ici que jusque-là, Dieu avait créé l'homme à son image. Et nous savons que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parce que c'est ce que Jésus lui-même nous a dit dans Jean 4, 24. Maintenant, nous voyons Dieu le dire dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Puis au chapitre 2, nous voyons Dieu vêtir l'homme de la poussière, lui donnant la manifestation. Cet éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Avant d'aller plus loin, précisons certaines choses ici même. Dieu parle et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, à qui s'adresse-t-il ici? Il dit, faisons. Et puis il dit, notre image. Qui est-elle l'image de Dieu en premier lieu? Hébreux 1, 1-3 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, de Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'image exprimée, ou le rayonnement ou l'empreinte de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4 Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es Aïe mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Grâce Fellowship Tabernacle, décembre 2003. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à brian@messagedoctrine.net.